Mission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Alter Nantes, 98.1 FM à Nantes et 91 à Saint-Nazaire. Nous sommes la Société d'Astronomie de Nantes et nous avons l'émission en direct Pulsan, la fameuse Pulsan.
Et en public.
Et en public, parce qu'on a beaucoup de public. Voilà, ils font des gestes en plus, vous entendez pas parce qu'ils n'ont pas de micro. Donc ce soir, pas mal de choses, comme d'habitude. Vous avez notamment un compte-rendu de la conférence de Michel Marcellin. C'est surtout l'interview que Daniel Worling a réalisée lors de sa dernière conférence, avec quelques petites infos pour expliquer un peu tout ce qu'il a parlé. C'est une conférence qu'il a faite il y a quelques semaines. Et aussi, vous aurez une partie en fait astro-pratique, bien choisir son instrument. C'est pour les gens qui veulent acheter un instrument pour Noël, donc vous aurez quelques petits conseils pour savoir ce qu'il faut prendre. Et c'est les conseils seront valables toute l'année, bien sûr. Et aussi, un peu d'histoire avec la catastrophe de Tunguska. Attention, c'est dur à prononcer, je ne vous explique pas. Bon, vous comprendrez pourquoi, d'où est-ce que du pays que ça vient, c'est pas simple à prononcer, surtout que j'ai pas la langue officielle.
Faut que tu fasses des exercices de diction.
Ouais, je pense, ouais. Mais alors,
un stylo dans la bouche en travers.
Ouais, ou des patates chaudes comme ils faisaient. Voilà.
Comme les Anglais.
Comme les Anglais.
Bah, hein. T'as vu ce que ça donnait, hein.
Donc, Tunguska. Alors, pour ceux qui savent pas, hein, vous écoutez Pulsan et puis vous verrez bien. Donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Daniel Worling, qui va nous présenter qui est ce fameux Michel Marcellin, et puis de quoi il nous a parlé, c'était vendredi...
C'était le 17 novembre.
Voilà, le 17 novembre.
17 novembre dernier, c'était la première conférence du cycle 2000-2001, des conférences de la Société d'Astronomie. Ça sera une riche année, d'ailleurs, puisque c'est l'année de nos 30 ans, donc on a fait revenir tout un tas de conférenciers qu'on aimait bien, dont Michel Marcellin, qui est vraiment un astronome éminent. Alors, il travaille à l'Observatoire de Marseille. Alors, au début, quand on connaissait pas tout, et puis on s'est dit, Marseille, c'est surtout connu pour les blagues et des choses comme ça. On s'est dit, tiens, il y a un observatoire à Marseille. Eh bien, oui, il y a un des meilleurs observatoires, on peut dire, au monde, puisque, et historiquement, il a été impliqué dans la mise en place de l'interférométrie. Il y a de grands noms qui sont associés à l'Observatoire de Marseille, et notamment l'une de leurs spécialités, c'est l'étude des galaxies. Mmh. Des galaxies et de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et Michel Marcellin, donc, qui est déjà venu sous nos étoiles il y a quelques années, il est venu deux ou trois fois déjà. Il a toujours parlé de galaxies, puisque c'est son domaine d'étude, c'est là où il excelle. Et là, il est venu nous parler de la structure spirale de la Voie lactée.
Donc la nôtre,
oui. Et notre galaxie, nous sommes dedans, n'est-ce pas? Alors quand on regarde le ciel, on voit cette traînée blanchâtre, c'est la Voie lactée. Et Michel Marcellin vous expliquera pourquoi ça, cet aspect-là, et comment, à partir de ce qu'on voit à l'intérieur, comment on peut savoir comment elle est faite, hein, quelle structure a-t-elle, cette structure en spirale. Alors il y a aussi des découvertes, hein, à Marseille, ils ont vu qu'il y avait moins de spirales qu'on croyait. Et que
on ne dévoile pas toutes les missions.
Non, penses-tu? Mais non, mais je mets l'eau à la bouche,
ah,
mon cher.
Ah, t'as raison.
C'est des amuse-gueules pour l'instant. En fait, je dis simplement que le soleil n'occupe pas la place qu'on croyait, voilà. Etc.
Il y a pas mal. En fait, ça peut révolutionner l'image qu'on se fait, les images qui sont dans les livres, en fait. Hein,
absolument. C'est-à-dire que l'image, que le schéma de la Voie lactée que vous avez dans les bouquins, c'est le schéma de Monsieur Georgelin, qui viendra d'ailleurs l'année prochaine, qui a établi à Marseille la structure de la Voie lactée. Alors Michel Marcellin était le directeur adjoint de l'Observatoire de Marseille. Il l'est plus, mais il change beaucoup, ces gens-là. Il est donc chercheur au CNRS. Hein, il est au laboratoire, maintenant ça s'appelle plus l'Observatoire, ça s'appelle le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille.
Ouais, je crois qu'il cherche un nom, en fait.
Oui, ils sont en train de chercher un nom. Le concours d'idées est ouvert. Si vous avez une idée, vous nous la faites transiter et vous en aurez la paternité.
L'envoyez sur internet, hein, saint-fr.com, et puis vous allez voir. Vous aurez notamment la trombine de Marcelin et vous pourrez lui envoyer un mail si vous avez une idée pour son nom d'observatoire.
Il a placé son site internet. Alors, ce qui est très drôle, c'est l'anecdote, c'est comme Michel Marcelin est arrivé, il a dit tu peux pas savoir. Il y a un de mes collègues qui a tapé mon nom sur internet, sur un moteur de recherche, il a tapé Marcelin. Et puis voilà que toute ma biographie est apparue sous ses yeux. Alors, j'ai trouvé un moteur de recherche fantastique qui sort la biographie des gens quand on tape leur nom. Pas vrai du tout. Il est simplement tombé sur le site de la SAN.
C'est vrai, ouais.
Et qui est donc manifestement bien fait. Apparemment. Cher Thierry, n'est-ce pas? Enfin, du moins pour cet aspect-là.
Pour cet aspect-là.
Et blanc. Donc, Marcelin est spécialiste de la rotation des galaxies. Alors, la rotation, ça vous dit pas grand-chose, mais c'est important de savoir comment les galaxies bougent, qu'est-ce qui se passe quand elles tombent en interaction, c'est-à-dire quand elles entrent en collision, par exemple. Et alors ça, c'est un aspect des choses, c'est-à-dire que Michel Marcelin est vraiment l'homme de la situation pour parler de la structure des galaxies et de la nôtre. À côté de ça, il a travaillé sur les plus grands télescopes du monde. Et ces télescopes nous intéressent beaucoup parce qu'il y a l'ancienne génération, évidemment, celle que nous autres amateurs, nous sommes friands de connaître, à savoir les télescopes avec les grands miroirs, tout cela. Mais vous savez que depuis quelques années, c'est la grande révolution et que l'on s'oriente vers des télescopes géants, des moyens tout à fait étonnants. Mais par contre, ça, c'est l'objet de la conférence de Pierre Léna, donc j'en parlerai, on en parlera une autre fois,
à
la prochaine émission. En tout cas, là, on a quand même fait parler Michel Marcelin de son expérience sur ces grands instruments, parce que ça, donc, c'est quand même...
La conférence rappelle un peu quand est-ce que ça s'est passé.
Alors, la conférence a eu lieu vendredi 17 novembre. Mmh. Alors, pour une fois, on a eu le temps, on a fait l'interview le lendemain. Donc ça, c'est assez confortable, parce que moi, j'ai écouté la conférence de Michel Marcelin, et le lendemain, quand j'ai fait l'interview, je partais pas tout nu, comme on dit. Alors cette interview, Thierry l'a découpée en quatre parties, mais enfin j'ai souhaité aussi qu'elle soit en quatre parties. La première que vous entendrez maintenant, Michel Marcelin va vous rappeler ce que c'est qu'une galaxie. Dans la deuxième partie, on vous parlera de la structure. Dans la troisième partie, on vous dira comment, avec quels moyens d'instrumentation on a établi cette structure. Et enfin, la dernière partie, on parlera des grands télescopes. Donc écoutez Michel Marcelin.
Rappelons d'abord ce que c'est qu'une galaxie.
Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, de gaz et de poussière, répartis en boules plus ou moins aplaties, pour ce qu'on appelle les galaxies elliptiques, et puis répartis dans un grand disque plat, pour ce qu'on appelle les disques spirales. Et à l'intérieur de ce disque, il y a une répartition des étoiles les plus brillantes qui se fait sous forme de bras spiraux caractéristiques. On a dans une galaxie typique plusieurs centaines de milliards d'étoiles, certaines plus petites que le Soleil, d'autres plus grosses, enfin le Soleil étant une étoile assez moyenne. Donc voilà en gros ce que c'est une galaxie, et surtout ce qu'on peut dire c'est que l'univers est composé de milliards de galaxies. Donc la galaxie c'est un peu la brique élémentaire de ce grand assemblage qu'est l'univers.
Oui, c'est ce qu'on appelait les univers-îles autrefois, et même les nébuleuses, d'ailleurs tu vas le rappeler. Et on va donner quelques idées des dimensions des galaxies, bien qu'il y en ait des petites et des grandes.
Alors c'est vrai que lorsque les astronomes ont commencé à regarder le ciel avec des instruments, ils voyaient des choses bien piquées, bien ponctuelles, qui étaient des étoiles. Et ils voyaient derrière, on a compris après que c'était plus loin, ils voyaient au milieu de ces points des taches plus ou moins floues. Donc tout ça était baptisé nébuleuse. Jusqu'au début du siècle, on a réalisé qu'il y avait deux types de nébuleuses. Les nébuleuses qui sont vraiment des nuages de gaz qui sont dans notre propre galaxie, donc relativement proches de nous, à quelques centaines ou quelques milliers d'années-lumière pour les plus distantes. Et puis on avait, beaucoup plus loin, des galaxies qui, elles, se trouvaient donc composées d'étoiles, de gaz, de poussière, et qui se trouvaient à des distances nettement supérieures, c'est-à-dire qu'on atteignait très vite le million d'années-lumière.
Mais on a pu avoir une idée de ces distances comment est-ce qu'on a su pour la première fois qu'il y avait des nébuleuses qui étaient beaucoup plus loin? Comment est-ce qu'on a mesuré les distances?
Alors, les galaxies spirales, on a commencé à les appeler nébuleuses spirales. Quand on a pu distinguer au début du siècle, disons dans les années 1920-25, grâce aux techniques de photographie qui s'amélioraient et surtout grâce à des télescopes un peu plus gros que la moyenne, disons que le premier vraiment important c'était le 2,50 m du mont Wilson, on a pu à ce moment-là réaliser qu'il y avait à l'intérieur de ces nébuleuses spirales en fait des étoiles, c'est-à-dire que les bras spiraux étaient composés eux-mêmes d'étoiles. Et c'est là qu'on a vraiment pu commencer à estimer leur distance, parce qu'on s'est rendu compte, en ayant une idée de la luminosité intrinsèque de ces étoiles, on a vraiment réalisé qu'elles étaient très loin, ces galaxies.
Oui, alors revenons un petit peu à la Voie lactée, qui est donc notre galaxie, nous sommes dedans, hein, on va d'ailleurs préciser cette notion. On sait depuis quand à peu près que cette Voie lactée, en fait cette traînée blanchâtre qu'on voit dans le ciel, on sait que ce sont des étoiles à peu près, ça a commencé quand ?
Ah ben c'est toi qui me l'a rappelé tout à l'heure en discutant, puisqu'il paraît que ce sont les Grecs qui avaient, et notamment Démocrite, qui avaient avancé l'idée que cette Voie lactée, ce fond de lumière laiteux, était en fait constitué par des milliers d'étoiles individuelles. Alors, lui, il avait l'idée, mais il n'avait pas pu vraiment le mettre en application. Par contre, chacun de nous peut le vérifier avec de simples jumelles. Il suffit de braquer des jumelles vers la Voie lactée pour s'apercevoir que ce fond de lumière continue est composé, en fait, de milliers d'étoiles individuelles. Et Galilée lui-même, avec sa petite lunette, avait commencé à distinguer ces étoiles individuelles au sein de la Voie lactée.
Oui, alors en effet, puis par la suite, je crois que c'est Kant et Herschel qui ont précisé cette notion, mais je crois que Herschel avait situé le Soleil donc au centre de la Voie lactée, et maintenant qu'en est-il ?
Alors c'est vrai qu'on a commencé par penser que le Soleil était au centre de la galaxie, et en fait on s'est aperçu après qu'il tournait autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il tourne d'ailleurs, je crois qu'il a fait une vingtaine de fois le tour depuis qu'il existe, et pourtant il va vite, il va à 200 km par seconde, mais la distance à parcourir est si grande qu'il n'a réussi, si on peut dire, qu'à faire une vingtaine de tours depuis qu'il existe, depuis qu'il s'est formé. Alors lorsque on regarde la galaxie et que l'on voit, enfin par la tranche, c'est vrai que ce que l'on voit, ce qu'on appelle la Voie lactée, c'est la trace dans le ciel du plan de cet immense disque en rotation dans lequel notre Soleil est une étoile parmi d'autres, une étoile plutôt, je dirais plutôt petite, un peu en dessous de la moyenne, et qui se trouve à peu près aux trois quarts vers l'extérieur de ce disque galactique. Et en plus, ce qu'on peut préciser, c'est que le Soleil se trouve entre deux bras spiraux de la galaxie, donc dans une zone où il n'y a pas vraiment d'étoiles très chaudes et d'étoiles très brillantes.
Alors effectivement, donc on va rappeler rapidement qu'il y a à peu près 200 milliards de, non pas de soleil, en fait d'étoiles, mais en fait il y a à peu près 200 milliards de fois la masse du soleil, hein, c'est cela.
C'est ça. Alors on estime les masses de galaxies de manière générale en les donnant en masse solaire, parce que c'est une unité qui est relativement pratique pour l'astronome, et puis même, je dirais, pour tout un chacun, ça donne une idée. Ça donne une idée d'abord parce que le Soleil, on sait que c'est quelque chose d'énorme, et à titre indicatif, on peut donner sa masse en kilogrammes, c'est 2×10⁻³ kilogrammes. Hein. Donc c'est des milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Et on peut ensuite donc arriver à avoir une idée, quand on donne une masse de galaxies en masse solaire, ça donne une idée tout de suite du nombre d'étoiles qu'il y a dedans, puisque on peut effectivement considérer que c'est une étoile relativement moyenne. Il y en a de plus grosses, on va jusqu'à une centaine de masses solaires. Les plus grosses sont vraiment, il est vrai, il faut le dire, relativement rares. Hein. Et puis on a à l'inverse des étoiles beaucoup plus petites, ce qu'on appelle des naines, qui vont jusqu'à un dixième, même pas, un peu moins d'un dixième de la masse du Soleil.
Alors donc nous avons rappelé en quelques mots ce que t'est une galaxie, que notre Voie lactée est en fait une galaxie elle aussi, c'est une galaxie assez honorable puisqu'elle est assez grande, et maintenant arrivons donc au vif du sujet de ta conférence, puisqu'elle portait sur la structure spirale de la Voie lactée. Bon, on savait que c'était une galaxie spirale, mais je crois que l'Observatoire de Marseille a précisé le nombre de spires, etc. Et surtout, on va peut-être rappeler, mais tout à l'heure, que l'Observatoire de Marseille est un observatoire de pointe dans ce domaine-là. Alors, quels sont les travaux qui ont été faits à l'Observatoire et par toi-même sur cette structure de la Voie lactée ?
Alors on peut dire que les gros travaux et les grandes découvertes ont démarré en 1976 lorsque deux collègues de l'Observatoire, qui sont Yvon et Yvonne Georgelin, ont publié une carte de notre galaxie telle qu'on l'avait revue de dessus. Rappelons que nous, on est dedans, on la voit par la tranche et c'est là qu'on voit la Voie lactée. Donc si on pouvait s'élever et que l'on regarde par-dessus, on verrait un beau dessin de Bras Spiro comme on voit dans les autres galaxies. Et en portant sur une carte les positions de régions de gaz ionisé, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les étoiles les plus chaudes et qui dessinent donc les Bras Spiro, ils ont pu montrer que notre galaxie avait 4 Bras Spiro. Alors que de manière générale, la plupart des galaxies spirales ont 2 bras. Alors dans notre équipe, on a repris ces travaux par la suite, on a voulu approfondir ça, préciser le tracé de ces bras, et c'est ce que l'on a fait au cours des 10 dernières années. C'est un travail d'équipe qui a été suivi par 7 à 8 chercheurs au total et qui a demandé un peu plus de 10 ans de travail continu avec des missions régulières au Chili sur un instrument de taille relativement modeste puisqu'il ne fait que 36 cm et qui a conduit finalement à préciser ce schéma, à confirmer l'existence des 4 bras, mais à prolonger le tracé. Et alors qu'on suivait ces bras spiraux sur un demi-tour, maintenant on les suit sur pratiquement un tour complet.
Voilà, vous venez d'entendre Michel Marcellin, du moins la première partie de son interview. Vous entendrez les 3 autres parties donc tout à l'heure. Cette première partie portait effectivement sur la Voie lactée, sa structure, qui est une des spécialités de cet astronome. Alors une chose qui fera plaisir à Frédéric, c'est que finalement on a fait tout cela avec un télescope de 36 cm. C'est ce que nous avons.
Ce qui est tout à fait abordable pour des amateurs.
Voilà, voilà. Et donc il y a peut-être des tas de choses à en dire. Rappelons d'une part que cette structure en étoiles de la galaxie, c'est vrai que moi j'ai découvert que les Grecs avaient déjà pensé à cela, mais ils ne l'avaient pas vu. Mais ils y avaient pensé parce qu'eux, ils mettaient tout en atomes, ils pensaient que les grosses choses étaient faites de toutes petites choses répétées. C'est une façon mathématique d'atomiser le monde, et d'ailleurs le terme atome vient de là. C'est pas idiot, et après ça a été confirmé. Alors, ce que moi j'ai envie de demander à Frédéric, c'est vrai que les galaxies, quand on les regarde comme ça à l'œil nu, enfin avec des jumelles, avec même des télescopes, on voit des petites taches floues. Mais il y en a peut-être, pour les amateurs, il n'y en a peut-être pas beaucoup qu'on arrive à résoudre en étoiles. Hein. Est-ce qu'on y arrive ?
C'est vrai qu'on a très peu de galaxies où on peut voir réellement les étoiles, à part bien sûr notre Voie lactée, mais ça c'est tout à fait normal.
Ouais, là on est dedans, on n'a pas beaucoup de mérite.
On n'aurait pas beaucoup de mérite, c'est sûr. Mais sur les galaxies les plus proches, que ce soit la galaxie d'Andromède, ou j'irais visible depuis l'hémisphère nord, c'est quand même assez difficile à résoudre, c'est même irrésolvable. Je dirais, on arrive à voir quelques nébuleuses, comme on peut en voir dans la Voie lactée,
oui.
Mais voir réellement des étoiles, c'est quasiment impossible.
Il n'y a que les grands observatoires qui sont arrivés.
Ouais.
Et les nuages de Magellan ?
Les nuages de Magellan, je pense que c'est à peu près la même chose.
Là, on n'arrive pas à les résoudre non plus.
Je pense pas qu'on réussisse à les résoudre. On voit aussi là des nébuleuses assez célèbres, mais... De là à dire qu'on voit réellement des étoiles telles qu'on peut les voir dans la Voie lactée, c'est un peu plus compliqué quand même.
Alors tout à l'heure, Michel vous décrira les méthodes avec lesquelles on est parvenu à établir cette structure. Vous voyez que c'est quand même assez difficile, même pour la Voie lactée. Alors pour les autres galaxies, c'est difficile parce que c'est loin. Pour la nôtre, c'est difficile parce qu'on est dedans et qu'on voit tout sous un angle qui est vraiment très très défavorable. Si on était au-dessus, ça serait plus facile.
Ça serait plus facile pour voir la structure, c'est sûr.
Merci. Donc après la pause musicale, nous retrouverons, comme l'a dit Daniel, la suite de l'interview de Michel Marcellin. Bien sûr, la petite chronique astropratique et puis la chronique histoire. Tout de suite, nous allons parler de la suite de l'émission avec la suite de l'interview de Michel Marcellin. Et bien sûr, à plus tard, vous aurez la petite chronique astropratique et la partie sur la catastrophe de Tunguska. Alors, normalement, j'ai bien prononcé là.
Et vous êtes sur alternante avec l'émission Pulsan de la SAN, de la Société d'Astronomie de Nantes. Alors, effectivement, on va reprendre cette interview de Michel Marcellin, qui est donc notre premier conférencier qui est venu le 17 novembre et qui nous a parlé de la structure spirale de la Voie lactée. Donc, dans sa première partie, il a rappelé ce que c'est une galaxie et la Voie lactée. Et maintenant, il va nous dire comment est-ce qu'on a établi cette structure de la Voie lactée. Donc, vous allez entendre à nouveau Michel Marcellin.
On va faire une petite parenthèse, un petit retour sur justement cette notion de bras et par quoi sont-ils dessinés ? Parce que ce sont en fait, tu vas le rappeler, des espèces d'ondes de condensation de matière d'où naissent les étoiles les plus chaudes. Et c'est pour ça qu'on les voit d'ailleurs. Et donc c'est bien ce que tu avais dit, on cherche justement ces zones de nuages d'hydrogène ionisé deux fois, c'est-à-dire là où semblent les étoiles. Hein, donc on peut rappeler rapidement ce qu'est un bras de galaxie spirale.
Alors effectivement, le bras spirale est dessiné par une onde qui passe dans le disque de la galaxie. Cette onde, c'est une espèce de vague comme une vague dans la mer, donc elle ne déplace pas de matière. C'est-à-dire que, pour reprendre l'image de la vague dans la mer, le pêcheur qui est en train de pêcher à la ligne voit son bouchon qui monte et qui descend quand la vague passe, mais il n'est pas entraîné par le mouvement. Donc cette onde qui passe, elle ne perturbe pas le mouvement des étoiles, du gaz et de la poussière qui tournent autour du centre de la galaxie. Simplement, elle ajoute momentanément un surcroît, un excédent de matière, de même que la vague dans la mer apporte un peu plus de hauteur d'eau lorsqu'elle passe. Donc cet excédent de matière qui n'est que de quelques pourcents, on l'estime à une dizaine de pourcents, va suffire pour donner, lorsque l'onde spirale passe, donner le coup de pouce qui va faire s'effondrer les nuages de gaz qui sont là, je dirais, prêts à former des étoiles. Ils sont prêts, mais ils ne le font pas spontanément. Donc cette onde qui passe va donner une sorte de pichenette, de petit coup qui va déclencher l'effondrement des nuages, et donc des étoiles vont s'allumer. Des étoiles jeunes, des étoiles massives, des étoiles chaudes qui émettent beaucoup de rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement ultraviolet va électriser le gaz, essentiellement l'hydrogène, qui est le plus abondant dans l'univers, et on va voir à ce moment-là se former des nébuleuses. Nébuleuses comme la fameuse nébuleuse d'Orion, qui est la plus connue des astronomes amateurs, donc qui émettent dans une couleur rouge caractéristique, l'arrêt que l'on appelle l'arrêt H-alpha de l'hydrogène. Donc si on veut tracer les bras spiraux d'une galaxie de manière générale, et de la nôtre en particulier, on va suivre dans cette couleur, dans cette raie d'émission caractéristique, on va essayer de reconstituer point par point la position de ces nébuleuses, qui vont permettre donc de retracer la forme des bras spiraux.
Alors justement, pour arriver à connaître cette position des nébuleuses, bien entendu, on ne va pas la mesurer directement, enfin, si j'ose dire, par quel moyen, je n'en sais rien, mais effectivement, il y a un moyen indirect qui est de mesurer en quelque sorte leur vitesse. C'est ça l'idée. La vitesse d'éloignement. Alors comment est-ce que l'on mesure cette vitesse ?
Alors on la mesure en utilisant l'effet Doppler, qui est bien connu en acoustique, puisque tout le monde a déjà fait l'expérience de noter le changement de hauteur de son quand un véhicule passe juste devant nous en klaxonnant. Ça fait un... Voilà l'effet Doppler. Et donc, on a la même chose avec la lumière, qui est un phénomène ondulatoire. Alors, lorsqu'un véhicule vient vers nous, il rattrape ses ondes, donc elles apparaissent plus serrées qu'elles ne sont en réalité. Le son apparaît plus aigu. Et lorsqu'il est passé, lorsqu'il abandonne au contraire les ondes derrière lui, le son paraît plus grave. Alors, c'est pareil pour la lumière. Lorsqu'une source lumineuse vient vers nous, les ondes de lumière qu'elle nous envoie paraissent plus serrées les unes contre les autres, et donc ça paraît plus décalé vers les courtes longueurs d'onde, ça paraît plus bleu. Et à l'inverse, une fois que lorsqu'une source s'éloigne de nous, on voit un décalage qui est vers le rouge. Donc cette mesure, la mesure de l'effet Doppler, ce même effet Doppler finalement qui est utilisé en médecine pour repérer les rétrécissements veineux, ou utilisé par la gendarmerie pour mesurer la vitesse de nos véhicules, même si la technique est différente, c'est à la base le même effet qui est utilisé. Et donc nous, il nous permet de mesurer la vitesse de nébuleuse, donc voir si elle s'approche ou elle s'éloigne de nous. Et c'est là qu'on va pouvoir calculer la distance, parce que comme on connaît à peu près les lois de rotation de notre galaxie, donc de ce grand disque d'étoiles, de gaz, de poussière, on sait à peu près comment il tourne. On va, à partir de ça, et sachant où se trouve le Soleil dans ce disque, en déduire la vitesse qui est attendue pour chacun des autres points du disque. Donc, mesurant la vitesse d'une nébuleuse, sachant dans quelle direction on l'observe, on va pouvoir savoir où elle se trouve exactement, c'est-à-dire à quelle distance de nous elle est observée.
Et c'est ainsi qu'on reconstitue, en quelque sorte, donc cette structure, ces bras de notre galaxie qu'on ne peut pas voir autrement, puisqu'on ne peut pas être, comme tu l'as dit, on ne peut pas être en dehors, on ne peut pas la photographier en étant au-dessus. Donc fatalement, on est dedans et on essaye de reconstruire cette structure spirale. Alors parmi les galaxies spirales, on en connaît quand même un certain nombre, hein, tu vas en rappeler peut-être quelques-unes, et puis est-ce que notre galaxie, est-ce qu'elle est pareil que les autres? Est-ce qu'elle est au contraire très particulière? Ensuite, il y a un nombre de bras, il y a des galaxies qui ont différentes, il y en a qui en ont beaucoup, d'autres qui en ont peu. Est-ce qu'on peut faire un petit tableau général de ce monde des galaxies spirales et situer la nôtre dans cet ensemble?
Alors, on peut citer les deux galaxies les plus proches qui sont les nuages de Magellan, le petit nuage et le grand nuage, visibles dans l'hémisphère austral. Ce sont de petites galaxies irrégulières qui n'ont pas de forme bien définie et qui sont en orbite autour de notre galaxie. C'est-à-dire que de même que des petites planètes tournent autour de planètes plus grosses, on a des petites galaxies qui tournent autour de galaxies plus grosses. Ensuite, on trouve la première grande galaxie digne de ce nom, qui est la galaxie d'Andromède, connue également sous le nom de code de Messier 31. Et cette galaxie, elle est à 2 800 000 années-lumière, disons entre 2,5 millions et 3 millions d'années-lumière de nous. C'est la seule qui soit visible à l'œil nu de l'hémisphère nord, sous la forme d'une petite tache floue. Encore faut-il bien savoir où elle est, mais la plupart des amateurs l'ont déjà observée. Avec des jumelles, on arrive à bien voir sa structure allongée, mais on ne distingue pas facilement la structure spirale des bras. Alors on pense qu'elle a deux bras spiraux, je dis on pense parce que compte tenu de son inclinaison c'est assez difficile à voir. Maintenant si on regarde la plupart des galaxies autour de nous, celles pour lesquelles on voit très bien la structure ont deux bras bien dessinés, mais certaines en ont quatre, parfois même on compte jusqu'à 8 ou 10 bras qui sont ramifiés et il n'est pas toujours facile de dessiner la structure spirale et de compter les bras.
Alors la Voie lactée, elle en a combien des bras ?
Alors pour la Voie lactée, on pense effectivement qu'elle a 4 bras. Disons que tous les travaux que l'on a faits à Marseille ont convergé là-dessus. En 1976, lorsque Yvon et Yvonne Georgelin avaient publié leurs premiers travaux, les gens étaient sceptiques. Hein. Ça allait un peu à l'encontre de ce qu'on pensait et de ce qu'on voyait sur la plupart des autres galaxies. Ça faisait de notre galaxie une galaxie un peu à part, un peu particulière, et ça avait été accueilli plutôt froidement. Mais la plupart des collègues, aussi bien américains qu'européens, qui ont fait des observations ensuite pour vérifier ça, hein, parce qu'en astronomie, on vérifie toujours ce que les collègues racontent. Non pas qu'on ne se fasse pas vraiment confiance, mais je crois qu'il faut, le propre du scientifique, c'est de douter. Donc quand on voit surtout quelque chose comme ça qui a l'air un peu anormal, ben, il faut le vérifier. Alors ça a été largement vérifié depuis, et notre équipe a continué d'ailleurs, comme on l'expliquait tout à l'heure, ce type de travail pour aller un peu plus loin. Et maintenant, dans la plupart des ouvrages de vulgarisation, on voit ce schéma à quatre bras. Si moi j'invite les auditeurs à ouvrir le Larousse et à chercher au mot « galaxie », ils verront qu'il y a un dessin. Notre Voie lactée avec quatre bras.
Et avec un peu de chance, plus loin, ils verront le nom de Georgelin qui a découvert ces quatre bras. Alors quatre bras, ça fait pas beaucoup, et ça fait surtout pas beaucoup par rapport à des Marseillais qui ont tendance à exagérer, non ?
Ben déjà, c'était pas mal d'en voir deux fois plus que ce qu'il y a dans les autres galaxies, mais on n'a pas voulu pousser le bouchon trop loin.
Voilà, alors effectivement, cette Voie lactée galaxie spirale de 100 000 années-lumière de diamètre, on le rappelle, hein, avec ses quatre bras, et je crois que le Soleil, donc il y a une chose aussi qui est nouvelle, c'est qu'on croyait que le Soleil faisait partie d'un bras, on parlait du bras d'Orion, et puis ben on sait maintenant qu'il est entre deux bras, c'est ça, non ?
Il est entre deux bras, alors le bras d'Orion existe toujours dans la nomenclature, il est... pas très loin, mais le Soleil est quand même nettement en dehors du bras d'Orion.
Voilà, alors venez d'entendre la deuxième partie de l'interview de Michel Marcellin, réalisée donc le 18 novembre à l'issue de sa conférence de la veille, et portant sur les moyens avec lesquels on mesurait, on a établi cette structure de la Voie lactée. Alors Michel, effectivement, a été bien plus explicite au cours de sa conférence, bien entendu, où il a montré par quels détails on est passé pour... petit à petit construire cette structure de la Voie lactée de l'intérieur en mesurant la vitesse des nébuleuses qui étaient révélatrices de l'emplacement des bras. Alors, un petit mot encore sur ces structures de galaxies. Premièrement, on ne comprend pas encore tout à fait bien, à 100% dirais-je, pourquoi les galaxies ont ces bras. Enfin, on a quelques idées, mais c'est pas encore tout à fait...
Hein, je sais pas ce que t'en penses. La formation des bras, c'est vrai que c'est pas complètement expliqué.
Ouais, c'est pas tout à fait élucidé.
Comme les structures en général, c'est vrai qu'on parle de spirale, mais Il existe aussi ce qu'on appelle des spirales barrées avec une grande barre traversant le noyau.
Voilà.
Et ces structures-là ne sont clairement pas expliquées à ce jour.
Voilà. Et je crois que Michel Marcellin le rappellera tout à l'heure. Effectivement, on croyait aussi autrefois que les galaxies commençaient par être irrégulières, sans structure, en forme d'œuf, en gros, d'ellipsoïde, et peu à peu se structuraient en disques et en galaxies spirales. Et bien, on a tendance à penser l'inverse. Ça a beaucoup évolué, cette histoire-là. Et en même temps, il y a à peu près 50% des galaxies qui ont une forme de spirale, je crois.
Ouais, c'est un peu plus, 60%. Donc, ça représente une belle quantité sur le nombre inimaginable de galaxies.
Et toi, Frédéric, tu en as photographié quelques-unes des belles, belles spirales.
J'en parlerai un peu tout à l'heure, mais.
Sur toutes les coutures.
C'est vrai que ces différentes structures, on en reparlera et puis. On expliquera un peu ce qu'on peut observer au niveau astronomie amateur.
Alors tout à l'heure, Michel, dans la troisième partie, vous parlera des techniques d'observation. Juste un mot quand même, j'allais oublier de préciser que Michel Marcellin est aussi un ancien astronome amateur. Voyez.
Voilà.
Merci à tous les deux. Donc tout de suite, nous allons parler de la partie astropratique, c'est-à-dire bien choisir son instrument. Alors, c'est Régis Larcher qui s'y colle. Alors, vas-y à toi Régis, comment bien choisir son instrument?
Quel instrument d'abord?
Astronomique, on parlait.
Ah, astronomique, absolument. En cette période de fête, je crois que c'est un petit peu le moment de faire le point sur...
Quand on dit ça va être ta fête, on pense pas forcément...
Oui, non, ça n'a pas franchement à voir. En fait, je pensais plutôt aux gens qui veulent, je dirais, mettre en pratique ce que l'on peut apprendre un petit peu à la SAN, acheter leur propre instrument d'observation, ou bien faire plaisir à leurs enfants ou à quelqu'un d'autre pour... je dirais les contenter et leur permettre d'observer les merveilles du ciel.
C'est vrai qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que je peux acheter à mon enfant et pour quelqu'un qui débute? Alors c'est tout le temps le casse-tête.
Voilà, donc en fait je crois qu'il y a trois critères importants dans le choix d'un instrument optique. D'abord sa qualité optique qui est primordiale bien sûr, puisque c'est la pièce maîtresse de ce dit instrument. La qualité donc de sa lentille ou de son miroir, en l'occurrence s'il s'agit d'une lunette ou d'un télescope. La précision également et la stabilité de toute la partie mécanique, que ce soit la monture qui va donc supporter cet instrument, le trépied, enfin tout ce qui va intervenir dans la partie mécanique. Et surtout, un point qu'on oublie assez souvent, c'est la facilité d'utilisation et la facilité de transport, parce que c'est un des critères qui fera qu'on se servira plus ou moins souvent de son instrument.
C'est vrai que s'il faut une demi-heure pour la monter, voilà. C'est un peu la galère.
Et une chose aussi que tu as dit, c'est très important parce que au début on s'en rend pas compte, la stabilité, quand on parle de stabilité on se dit oui mais enfin bon, si l'optique est bonne, mais oui mais si l'optique est parfaite, mais si le pied tremblote, mais ce sont des micro-tremblements, ça se voit pas.
Si lorsqu'on fait la mise au point, ça n'arrête pas de bouger.
Voilà, puis la qualité, le confort, voilà, ça descend de 50% facilement.
Il faut simplement rappeler aux gens qu'on observe souvent en pleine campagne, donc on a rarement...
Il y a du vent.
Il y a du vent et en plus on est souvent sur de la terre, donc fatalement... Ouais.
Alors vous êtes en train de me piquer tout mon argumentaire là, les enfants, c'est formidable.
Bon, excuse-moi.
Alors donc je reviens sur le premier point qui était la qualité optique.
Mais comme ça les gens comprendront mieux.
Voilà. Et cette qualité optique donc, que ce soit pour une lunette ou un télescope, elle est donc primordiale. Pour une lunette donc, la lumière va traverser ce qu'on appelle l'objectif, qui est composé au minimum de deux lentilles. Ça peut aller jusqu'à quatre lentilles. Ces lentilles doivent être parfaites en termes de qualité du verre, bien évidemment, et parfaitement usinées, parfaitement surfacées, travaillées.
En verre, tu as bien précisé en verre.
Oui, du verre optique. Attention, voilà. C'est pas du verre genre verre à vitre. Hein. Voilà. C'est bien.
C'est pour ça que ça coûte plus cher. En plus.
Voilà, ça porte des noms bien spécifiques. Il y a des coefficients de transmission. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est
de réfraction. Oui.
Voilà, qui sont.
Il y a des traitements de surface, mais tu allais peut-être en parler.
Absolument.
Oui. Bon.
Alors, en ce qui concerne un télescope, quant à lui, donc il n'y a qu'une pièce optique. Enfin, il y a deux pièces optiques, le miroir principal et le miroir secondaire. Mais c'est une chaîne en fait. Hein. Le miroir principal, on y attache toujours beaucoup plus d'importance parce qu'il est bien évidemment plus grand. Ce miroir va donc réfléchir la lumière. Il n'y a qu'une seule face qui travaille en quelque sorte, si on peut appeler ça un travail.
C'est un miroir parabolique.
C'est un miroir de forme parabolique, absolument. Mais on peut utiliser un sphérique, tout dépend en fait de la longueur, du rapport entre le diamètre et la longueur focale. Alors cette précision au niveau usinage à atteindre doit être 4 fois plus importante pour un télescope que pour une lunette, que pour une lentille. C'est-à-dire qu'on tolère des défauts plus importants pour une lentille que pour un miroir de télescope. Alors à diamètre optique égal, les critères principaux en fait qui vont définir le choix de l'instrument, ça va être essentiellement donc ce diamètre exprimé en millimètres qui définit la capacité à collecter la lumière. Plus l'instrument va avoir un gros diamètre, plus on va emmagasiner de la lumière et la concentrer dans l'œil en fait. Donc on va voir les objets de plus en plus lumineux. Il va également définir ce diamètre optique, le pouvoir séparateur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la capacité à séparer les fins détails, la finesse atteinte par cet instrument. Ce sont deux points importants, beaucoup plus que le fameux grossissement qu'on vous met toujours sur les étiquettes quand on veut vous vendre du matériel.
C'est-à-dire que si on ne résout pas les détails, on va grossir du flou. En gros,
absolument,
c'est
exactement
donc
ça.
Donc il faut d'abord avoir le détail, et après ça vaut le coup de le grossir, voilà. Mais sinon c'est
il
pas
faut une peine. Optique de qualité pour pouvoir grossir. Alors ouais. Ce fameux grossissement, justement, les lois de l'optique nous donnent une limite. Il faut savoir que le grossissement moyen, celui qu'on va utiliser en pratique quand on va regarder la Lune ou les planètes, est en moyenne égal à une fois le diamètre de l'instrument exprimé en millimètres. Si vous avez un télescope de 115-900, vous regarderez aux alentours de 100 fois, 120 fois de grossissement. Ça pour une observation de tous les jours.
C'est un moyen mnémotechnique facile, en gros, facile.
C'est important parce que quand on vend des lunettes de 60 et qu'on grossit jusqu'à 400 fois, voilà. Ça veut dire qu'un astronome amateur qui sait s'en servir ne l'utilisera que grossissement 60 fois.
Un petit peu plus. C'est-à-dire le grossissement maximum tolérable, c'est 2,5 fois le diamètre.
Voilà. Dans les meilleures conditions.
Les meilleures. Si vous avez une très très bonne lunette, vous pouvez espérer aller jusqu'à 2,5 fois le diamètre de l'instrument exprimé en millimètres. Dans de bonnes conditions météo, parce que ça aussi, ça a son importance. C'est toute une chaîne, hein, l'optique. Que ce soit l'objectif, l'oculaire, ou les conditions météo devant vous, la lumière traverse tous ces éléments, les uns après les autres.
Et
si un des maillons est rompu,
ça ne plus pas on grossit, plus on perd la lumière, plus le champ se rétrécit, et plus il faut que l'objectif soit lumineux.
Tout à fait.
Pour pouvoir grossir.
Je dirais quand même que il y a des instruments qui sont plus destinés à certaines observations que d'autres. Notamment, les lunettes sont beaucoup plus, orientées vers l'observation planétaire que l'observation du ciel profond, c'est-à-dire les nébuleuses et les galaxies. Voilà. Donc, à privilégier plutôt une lunette si vous voulez vous orienter plus vers l'observation de la Lune et des planètes. Également, fonction du site dans lequel vous regardez. C'est-à-dire que si vous regardez en ville, vous aurez toujours des images qui seront à peu près moyennes. Mais vous pourrez exploiter facilement un petit instrument, tel une lunette astronomique, de jusqu'à 100 mm à peu près. Mmh. En campagne, vous pourrez, laisser libre cours à votre fantaisie. Et puis, fonction de votre budget également, pour utiliser des gros télescopes, là où il n'y a pas de pollution lumineuse, il n'y a pas de remous dû à la turbulence et aux effets thermiques que l'on trouve énormément en ville. Il vaut mieux avoir un petit instrument dont on se sert assez souvent, même sur une terrasse à la limite, hein. Bon, c'est un petit peu à proscrire, il vaut mieux une pelouse parce que c'est beaucoup plus stable au niveau thermique, mais qu'un gros instrument dont on va se servir deux fois par an, parce que d'abord
prend la poussière dans la salle à manger.
C'est une contrainte à transporter, quand on le sort il faut aller en campagne, c'est toute une expédition, et donc en fait finalement on s'en sert très peu. Et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de gens qui achètent un premier télescope, ou bien ils le laissent au placard au bout d'un certain temps par manque d'informations sur l'utilisation de ce télescope. Et là j'invite tout le monde à venir à la SAN prendre un petit peu des cours, parce que c'est un peu trop prétentieux, mais je dirais des informations quant à l'utilisation. S'initier au maniement de ces instruments. Et la deuxième cause de découragement, c'est effectivement d'avoir un instrument qui ne soit pas approprié à ses besoins.
Ou à ses envies aussi.
Ou à ses envies, ou à ce qu'on veut faire, absolument.
Est-ce que rapidement, tu peux donner les échelles de tarifs ou tu as encore de petites choses à dire ?
Non, pas du tout. Je veux pas parler de prix. Je conseille plus aux gens en fait, de s'orienter vers des instruments de marque qui ne sont pas forcément ceux qui font le plus de publicité d'ailleurs. On trouve des instruments chinois à des prix défiant toute concurrence qui sont des véritables saloperies.
Voilà, quand je dis échelle de prix, c'est-à-dire en fait un prix, il faut pour quel
prix. Donne une idée, oui, pour une lunette, ça va.
Je dirais qu'une bonne lunette, il faut mettre, pour une 60 par exemple, voilà, il faut mettre en gros 1000 francs.
Voilà.
Entre 1000 et 1500 francs.
Et un télescope à 115
francs. Un télescope, il faut mettre dans les 2000-2500 francs.
Voilà, parce qu'il y en avait quand même qui étaient largement en dessous du tarif.
Hein. Oui, justement. Alors, c'est parce que la monture, la qualité mécanique est plus légère, donc vous aurez des problèmes de vibration, etc. Il y a le porte-oculaire qui est important également. Donc là, c'est plus la partie mécanique, c'est-à-dire l'endroit où vous allez pouvoir glisser les oculaires pour regarder. Il faut, si possible, un coulant 31-75 mm. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'utiliser d'autres oculaires si on vous en prête. Par exemple, c'est un petit peu plus le standard. Bon, c'est un un standard, le 24-5 également, mais le 31-75 tend à se, je dirais, se répandre.
C'est le format américain, le 24-5, c'est 24-7, c'est les
Le chercheur, japonais. Quant à lui, c'est important. Souvent, vous avez toujours cette petite lunette guide sur le côté, hein, le petit chercheur. Alors, on trouve des petits bitonniers ridicules qui ne servent à rien du tout. Il faut au moins 30 mm de diamètre pour un chercheur quand on veut faire de l'observation des galaxies. Si vous voulez pointer une étoile, une planète, ça, un petit chercheur, même un SAM24, le plus ridicule, ça vous le pointe. Maintenant, si vous voulez aller chercher une petite galaxie, il faut au moins un chercheur de 30 mm, c'est le minimum pour qu'on puisse voir quelque chose. Et puis, dernier point, la facilité de montage et d'utilisation. Essayez de prendre un instrument qui soit livré avec une seule et même clé. Ça évitera d'avoir toute une trousse à outils à déballer avant chaque observation. Attachez-la, pour ne pas la perdre dans l'herbe, par exemple.
Il fait noir quand on l'observe.
Absolument. La facilité du montage et du transport. Bon, c'est vrai qu'on propose de plus en plus dans les catalogues des accessoires qui facilitent un petit peu la vie, mais il faut se dire que c'est pas parce que vous avez une valise de transport en cuir à 2500 balles que ça vous donnera des bonnes images dans votre télescope.
Merci Régis.
Alors on peut peut-être dire, parce que les gens, on va pas citer de marque ni de magasin parce qu'on n'est pas... Hein, on n'a pas le droit, mais si vous voulez savoir, nous avons sélectionné, nous autres, nous avons des partenaires opticiens que vous pouvez découvrir sur notre site internet, san-fr.com, et là, vous serez très bien guidé, voilà, et si vous voulez en savoir plus, voilà,
vous donneront le meilleur conseil. On a eu l'occasion, nous, de regarder un petit peu leur matériel, d'observer avec, et ils représentent des bonnes maisons, des bons fabricants, et vous ne serez pas déçus de toute façon avec ce genre de matériel. Et puis pour la partie, je dirais, occasion, si vous souhaitez acheter du matériel d'occasion, là c'est un petit peu plus pointu, n'hésitez pas à venir nous demander conseil, justement.
Voilà, vous pouvez venir un vendredi soir à la SAN, et même si vous n'êtes pas adhérent, vous nous demandez, on vous répondra fort obligeamment.
Absolument.
Merci à tous. Donc maintenant, on va reprendre notre partie de galaxies, puisque on nous a parlé un peu, Régis, qu'on pouvait en observer. Donc on va avoir justement les techniques d'observation des galaxies de Michel Marcellin, que Daniel va nous présenter rapidement.
Oui, Michel Marcellin, donc, qui était directeur adjoint à l'Observatoire de Marseille. Maintenant, il est chercheur au CNRS, toujours au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il est venu faire une conférence donc le 17 novembre dernier, on l'a interviewé. Et là, dans cette troisième partie, après nous avoir parlé de la Voie lactée et comment on a établi sa structure, il va nous parler un petit peu des techniques d'observation, fine, je pourrais dire professionnelle, hein, plutôt. Et dans la dernière, on parlera de grands télescopes. Donc on écoute Michel Marcellin.
Alors effectivement, on va peut-être abandonner le monde strictement des galaxies, parce qu'à propos de cette étude, on voit très nettement l'influence des techniques qu'on peut mettre en œuvre. Donc là, il s'agissait de techniques. On va peut-être les rappeler, d'ailleurs, ce qui a été utilisé pour établir cette structure, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'abord, c'est pas un grand télescope qui a permis cela. Et deuxièmement, pour mesurer ces fameux décalages vers le rouge, vers le bleu, on a utilisé un appareil qui est d'origine marseillaise, je crois aussi.
Oui, alors l'appareil, c'est un interféromètre, donc un appareil qui fait des interférences lumineuses, et on interprète les anneaux lumineux que forme cet appareil lorsqu'on regarde les nébuleuses de la Voie lactée, et c'est les déformations de ces anneaux par rapport à des anneaux parfaitement circulaires donnés par une lampe à hydrogène qui est placée dans le télescope, qui permettent, par le biais du fameux effet Doppler qu'on a évoqué juste avant, de remonter à la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse sur la ligne de visée, et donc voir à quelle vitesse se déplacent les nébuleuses qu'on observe par rapport à nous. Alors cet appareil, cet interféromètre dit de Perot et Fabry, a été donc inventé par ces deux physiciens au début du siècle sur la Canebière, et malheureusement maintenant on achète ce type d'appareil aux Anglais, parce que il y a un savoir-faire, disons, qui au niveau technique qui a été repris par nos collègues d'outre-Manche, mais néanmoins ils n'oublient pas de rappeler que c'est une invention française. Alors on doit également donc rappeler que ça a été fait avec un tout petit instrument, un télescope de 36 cm de diamètre seulement, donc un instrument d'amateur, on peut le dire.
Ça correspond d'ailleurs au plus grand de la société d'astronomie. Voilà.
D'accord. Et le miroir que l'on utilise a été commandé à une société aux États-Unis, mais qui fabrique du matériel pour les amateurs. Bon, on l'a fait contrôler par nos collègues opticiens du labo, qui nous ont dit la qualité est tout à fait acceptable, surtout pour ce qu'on voulait faire. On n'avait pas besoin, disons, de détails de grande finesse. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était avoir un grand champ. Donc par rapport à un grand télescope qui va permettre de fouiller de manière très approfondie une toute petite région du ciel, nous on voulait avoir une vision globale sur un champ assez grand. Bon, en l'occurrence, on a 40 minutes d'arc, c'est-à-dire un peu plus que la taille de la Lune ou du Soleil, au point de vue angulaire. Donc c'est quelque chose qui était indispensable pour pouvoir faire une mosaïque le plus complet possible, la plus complète possible, tout le long de la Voie lactée, chose qu'on n'aurait pas pu faire avec un grand télescope, d'abord parce qu'il aurait fallu un nombre de nuits incalculable, donc ça se serait étalé sur pratiquement un siècle au rythme où on aurait pu observer, alors que là, à raison de 3-4 missions par an, en une dizaine d'années, on a couvert toute la Voie lactée, en particulier la Voie lactée australe qui nous intéressait pour la structure spirale.
Donc là, on vient d'entendre Michel Marcellin dans cette troisième partie de son interview, qui portait plus particulièrement sur la technique très fine de mesure de la distance de ces fameux nuages dans la galaxie et qui donnaient leur à partir de l'effet Doppler avec cet appareil de Perrault-Fabry donnait leur distance. Donc ça a permis d'établir les structures en bras. Donc, hein, ça avait commencé dans la deuxième partie, ça s'est achevé là. Alors effectivement, donc là on a l'exemple des professionnels qui finalement utilisent un instrument, je ne dirais pas modeste, mais d'amateur, pour faire des travaux de recherche. Alors nous, à mon cher Frédéric, nous aussi nous faisons, enfin on peut peut-être pas appeler ça de la recherche, mais nous faisons quand même des travaux relativement précis avec nos télescopes. Alors bon, on va pas... qu'est-ce qu'on fait alors ?
Disons qu'on peut, je dirais d'abord pour commencer, donner une petite idée du nombre de galaxies qui est observable avec différents types d'instruments. Bon, par exemple, avec un 115-900, ce sont les télescopes un peu pour débuter, vous pouvez déjà observer à peu près 1800 galaxies. Donc, ce qui est déjà pas mal. Il y a quelques...
Tu parles que dans l'hémisphère nord, bien sûr.
Dans l'hémisphère nord. Il y a quelques bonnes soirées d'observation à se faire. Avec un 200 mm de diamètre, le nombre monte déjà à 4000. Donc... là, il y a encore vraiment de quoi faire. Là,
il faut quand même savoir où elles sont. Hein.
Voilà. Je dirais, il y a plus de temps à aller chercher qu'à
les observer en tant que telles.
Contempler. Puis on voit les petites taches floues. Là.
Voilà. Et on peut même pousser le bouchon un peu plus loin. On parlait de 360 mm, qui est le plus gros instrument de la SAN. Donc à peu près un 400 mm. Avec un 400 mm, c'est à peu près 10 000 galaxies qui sont observables. Donc là, il y a, je dirais pas toute une vie d'observation pour les observer une par une, mais il y a des belles soirées pour observer toutes ces galaxies.
Et là, on peut préciser aux gens quand même que s'ils veulent acheter un 360 mm ou un 400, là, ça, quand même, ça risque d'être un petit peu cher. Là, on est dans les budgets de 20 à 30 000 francs.
Pour un 400, même plus que ça.
Plus 30, 40, 50.
Voilà. Ouais, alors nous, on l'a fabriqué nous-mêmes. C'était juste une parenthèse.
Disons que le nôtre est un Dobson. Donc c'est une monture très simple, quelque chose en fait qui peut se construire soi-même. On peut éventuellement acheter l'optique et construire toute la partie mécanique.
Voilà, mais l'optique reste quand même le plus difficile à réaliser. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais revenons sur nos galaxies. Donc, nous, on s'est intéressé un peu aux galaxies dernièrement par rapport aux missions, je dirais, qu'on a fait
dans le Keras, dans les Alpes.
L'observatoire Astro-Keras. Tout simplement, j'étais un peu l'initiateur de ça l'année dernière. Donc sur la première mission qui est montée là-haut, l'idée c'était de faire des images de galaxies pour mettre un peu en valeur, je dirais, les différentes structures que l'on peut rencontrer sur ces galaxies.
En précisant que l'instrument que tu avais là-bas, c'était quand même un instrument professionnel de 60 centimètres.
Oui, hein. C'était un 60 centimètres.
Et tu as fait ces images avec une caméra CCD.
Avec une caméra CCD, mais bon, je dirais...
Et les images sont sur Internet.
Et les images sont sur notre site, donc vous pouvez aller voir, il y a un petit topo très bien fait là-dessus. Donc par rapport à cela, donc l'idée c'était d'observer un peu toutes les structures. Alors on a parlé bien sûr ce soir de la structure spirale de notre Voie lactée, mais il faut savoir qu'il existe d'autres structures de galaxies, en particulier ce qu'on appelle des elliptiques, qui sont, je dirais, des galaxies... un peu dénués de gaz, qui ont une forme assez ronde, sans véritable bras spiraux, comme on peut le rencontrer.
Et on pense que ce sont des vieilles, en fait, qui ont épuisé tout leur gaz.
Des vieilles galaxies.
C'est pas encore trop. Hein.
On sait pas encore trop. On suppose que ça peut être la collision de galaxies spirales aussi, ça. Michel Marcellin en a parlé aussi. On sait pas trop. Donc il y a ces galaxies. Il y a des galaxies qui sont entre... tiré entre la frontière entre la galaxie elliptique et la galaxie spirale, donc qui commence à avoir des amorces de bras, qu'on appelle donc des galaxies elliptiques, pas galaxies elliptiques, mais lenticulaires, que lenticulaire. Je dis pas de bêtises. Et il y a aussi ce qu'on appelle les galaxies régulières, là, qui ont des formes, je dirais, pas du tout définies, d'où leur nom, où il y a beaucoup de gaz, beaucoup d'étoiles jeunes. Donc là, on a pu aussi, je dirais, illustrer un peu toutes ces formes de galaxies. Et puis on a, je dirais, même été un peu plus loin pour déborder un peu du cadre de ces, je dirais, de la Voie lactée. On a été voir justement sur les galaxies voisines de notre Voie lactée, ce qu'on appelle le groupe local. Donc là, voir les galaxies qui sont proches de la nôtre. On parlait des nuages de Magellan, de la galaxie d'Andromède. Bon, il faut savoir qu'il y a à peu près une trentaine de galaxies qui appartiennent à ce groupe local et qui sont, je dirais, assez proches de notre Voie lactée. Alors, quand je dis assez proches, bon, c'est, je dirais, dans une sphère de 3 millions d'années-lumière autour de la Voie lactée.
Ce qui est à peu près d'ailleurs la distance moyenne entre les galaxies, tout confondu, ouais, c'est 2-3 ouais. millions d'années-lumière.
Ça reste, je dirais, une toute petite zone de l'univers, ça c'est clair. Mais donc, pour, je dirais, franchir un premier échelon dans l'approche banlieue de la galaxie, et puis on avait même été un peu plus loin en allant carrément photographier d'autres amas de galaxies comme le groupe local, où là je dirais les distances étaient encore beaucoup plus loin. Alors cette année
on ne trouvait pas la photo parce qu'il sera le mois prochain.
Voilà, il n'y est pas encore, mais vous pourrez la regarder.
C'est impressionnant
de compter le nombre de galaxies sur un champ assez restreint. Je pense que sur cette photo on en comptait facilement une trentaine, donc c'était quand même un nombre assez important et qui montre bien là, je dirais, ce qu'est un amas de galaxies. Et on a continué un peu cette année avec les missions qui sont remontées, cet été, et où là on s'est intéressé à faire, l'année dernière on avait fait, je dirais, de l'imagerie noir et blanc, où on s'était plus intéressé à montrer les structures. Cette année on a essayé de faire de l'imagerie couleur pour là mettre un peu en évidence aussi les différentes populations d'étoiles qu'on peut voir dans ces galaxies. Alors on peut s'apercevoir justement que dans les spirales on a tendance à voir un noyau à base d'étoiles assez vieilles, jaune-rouge, coloration jaune-rouge, alors que sur les bras spiraux, là on a des étoiles beaucoup plus jeunes avec des colorations bleues, quoi. Donc voilà ce que d'une idée toute bête et toute simple qui est en fin de compte la classification de Hubble, parce que Hubble est l'un des premiers à avoir posé une classification pour les galaxies. On a essayé en partant de ça de l'illustrer, et puis aussi de pouvoir aussi montrer l'évolution dans ces classifications, parce que la classification de Hubble date de 1930 et elle a évolué avec d'autres astronomes qui l'ont enrichi, qui ont proposé des nouveaux critères de classement. Et ça, en observant chacune de ces galaxies, on peut à partir d'une simple photo, dire, tiens, celle-là, c'est une galaxie spirale barrée ou de composantes telle ou telle ou une irrégulière. Donc il y a toujours, je dirais, dans l'imagerie assez simple.
La Voie lactée, c'est quel type de galaxie, non ?
Galaxie, c'est quel type de galaxie ? Ben, c'est une spirale, mais on aura, je dirais, le véritable mot de la fin, que quand on sera peut-être sorti de la Voie lactée, et puis on l'aura observé depuis l'extérieur tel qu'on peut le faire sur l'ensemble des autres galaxies. Mais ça, c'est pas pour tout de suite.
Mais malheureusement, non. Merci Frédéric. Après la petite pause musicale, nous retrouverons la suite de l'émission avec la catastrophe de Tunguska. Et je l'ai loupé, celle-là. Il l'a fait une fois sur deux. Et après, la dernière partie de la conférence de Michel Marcellin. Tout de suite, nous allons parler de la catastrophe de Tunguska. Je l'ai bien prononcé, je loupe une sur deux de toute manière. Avec Gilles Guibert. Alors Gilles, le mot que j'arrive pas à prononcer, que tu as fait exprès, c'est quoi en fait la catastrophe de Tunguska?
Alors c'est un lieu géographique qui est en Sibérie centrale. Tunguska, en fait, c'est un affluent d'un petit fleuve qui est à 1000 km au nord-ouest du lac Baïkal.
D'accord.
Alors, c'est historique parce que le 30 juin 1908, peu après 7 heures, heure locale, il s'est passé une catastrophe. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je vais juste décrire à peu près ce qu'on a vu, quoi. Par exemple, à 80 km de l'endroit, il y a eu des bergers. Il y a eu des bergers qui ont été plus ou moins projetés en l'air, sans savoir ce qui s'est passé. À 110 km, il y a une personne,
et des moutons.
Un témoin qui relate.
Mmh. Des moutons aussi, non ?
Des moutons aussi. Non, c'était pas des moutons, c'était des rennes, des bergers de rennes. Un témoin relate, soudainement, je reprends ce qu'il dit, soudainement, le ciel a été coupé en deux et au-dessus de la forêt, toute la partie nord du ciel semblait couverte de feu.
De moutons.
Non, de feu. Je ressentais une grande chaleur, comme si ma chemise avait pris feu. Il y eut un énorme fracas, je fus jeté au sol, environ 7 mètres du porche d'entrée. Quand même, il s'est pris un souffle énorme. Et je fus... Un vent chaud comme celui d'un canon venant du nord soufflant à travers les maisons, les huttes. Beaucoup de carreaux de fenêtres furent brisés. Et... Mais à 200 km plus loin, un objet de forme irrégulière et allongée, plus grande que la pleine lune d'observation. Plus grande que la pleine lune et d'un blanc intense est remarqué. Et à 500 km...
Ah, c'est des extraterrestres qui arrivent.
Non.
C'était la première émission
X-Files. À 500 km, des bruits sourds ont été entendus. On observe une nuée ardente se dégager. Et à 1000 km, on a quand même des vibrations sismiques qui sont enregistrées sur des sismographes. Et plus encore, à 3600 km, on a des ondes de compression dans l'air qui se font ressentir. Par contre, autre chose exceptionnelle aussi, la première nuit après cet événement, la nuit était extrêmement brillante. Hein. Au point, en Europe, en Sibérie de l'Ouest, on était capable de lire le journal à minuit, quoi. Il n'y avait pas besoin de lumière artificielle. Pire que la pollution lumineuse.
On va dire.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?
On ne sait pas trop.
Alors, il y a eu une expédition. Il a fallu attendre quand même 19 ans plus tard, en 1927, à cause des problèmes politiques et une période révolutionnaire.
Etc. C'était la Russie.
Et c'est une personne, un savant
russe. On ne sait pas qu'est-ce qui était la catastrophe. C'est en 1908 ou la révolution, d'ailleurs.
Oui, enfin...
Je
reviens à la catastrophe. Alors, un professeur, Leonid Kulik, de l'Académie des sciences russes. Oui.
Oui, c'est ça, oui.
Et des entremets franco-russes.
Non, russes. Et bah, il est parvenu avec difficulté pour la première fois jusqu'au paysage apocalyptique. Alors, qu'est-ce qu'il a vu ? Sur les lieux, il a vu une forêt, mais complètement.
Décapitée.
Dévastée.
Les arbres étaient couchés dans le même sens, partout pareil. Un rayon d'une dizaine de kilomètres. L'ampleur du dégât est quand même énorme.
C'est même pire que ça. D'ailleurs, il y a des arbres qui étaient en fait coupés à moitié du tronc, comme si une tondeuse gigantesque était passée au-dessus de la forêt.
Ouais. Et il y arriva grâce à la direction des arbres. Il en a déduit une vaste cuvette marécageuse dont il pensait être le cratère d'impact. Il nomma ça le chaudron. Mais en fait, le problème, c'est que c'était pas vraiment un cratère. C'est pas comme le cratère de météore cratère. Au début, on pensait que c'était une météorite qui serait tombée sur Terre et qui aurait fait un gros cratère. Ben non, il n'y avait pas eu de cratère. On ne découvrit même pas de débris météoritiques. On ne trouvait que des petites sphérules noires qu'on pensait provenir de l'espace. Il a fallu attendre quand même longtemps. Il y a eu plusieurs autres expéditions, mais on n'a toujours pas trouvé exactement ce que c'était. Alors, il y a une hypothèse quand même. C'est une hypothèse de comète de quelques dizaines de mètres et qui est la seule qui paraît s'adapter à cet événement. Aucun cratère d'impact n'a été observé sur place. On suppose que la comète a explosé en haute atmosphère, à 10 km de hauteur, ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas eu de cratère. Elle a explosé, un dégagement énorme d'énergie, donc un souffle énorme, d'où les arbres qui sont complètement...
ravagés.
Voilà.
Alors, il y avait une hypothèse aussi, à un moment donné, que c'était un ovni. C'était une
soucoupe. Oui, justement, je viendrai plus tard.
Ah, pardon.
Ne me coupe pas, Daniel.
Non.
Rapidement.
Donc, rapidement, confus. En plus de ça... ce qui expliquerait non plus aussi l'absence de débris météoritiques. De plus, pendant plusieurs semaines, le ciel nocturne était
anormalement.
Le ciel nocturne était anormalement lumineux, quoi. Il a fallu attendre jusqu'à fin août, 2 mois plus tard, que tout redevienne normal, que les astronomes puissent enfin observer tranquillement leurs étoiles. Et en Europe et en Russie, on pense que ça pouvait venir de la fine poussière qui s'est projetée en l'air au moment de l'impact, mais aussi d'une queue d'une comète qui était complètement passée,
qui avait traversé
la planète et qui était réfléchie par le soleil, quoi. Ce qui expliquait la luminosité, quoi. Et enfin, les sphérules noires qu'on avait trouvées, il s'est révélé que c'était que de la tourbe calcinée. Donc, c'est toujours une hypothèse. On sait toujours pas si c'est vraiment exact. On sait toujours pas les causes exactes de la catastrophe. Ce qui est quand même amusant de savoir, c'est que il y a eu pas mal de théories plus ou moins bizarres. Du coup, un écrasement d'un vaisseau extraterrestre, ça a été supposé. C'est oui, quand oui. même osé.
Mais j'ai lu un bouquin là-dessus. Mmh.
Ouais, il y a eu, oui, voilà. Il y a eu même, on a émis l'hypothèse d'une chute d'un mini trou noir qui aurait carrément littéralement traversé
bah, d'accord.
la Terre. Quoi.
Pourquoi pas une galaxie ? C'est le bras d'une galaxie qu'on s'est pris en pleine poire.
Voilà. Un mini trou noir de quelques millionièmes de mètres. Voilà. Quoi.
Mais non, c'était la chute des moutons qui étaient envoyés en l'air dans le premier impact. Ils sont retombés. Ils ont fait un trou.
On a pensé aussi à un morceau d'antimatière quoi, qui serait passé sur la Terre. En fait, on ne sait toujours pas ce que c'est, Tunguska.
Donc en fait, tu nous as parlé, tu n'as pas la réponse, quoi.
Non, on n'a pas de réponse. Le seul problème, c'est qu'on a trop tardé dans le temps. C'était quand même 1908. On a tenté une expédition en 1921, mais qui a été ratée à cause des conditions climatiques. On a dû attendre 1927. Est-ce que je sais, la dernière expédition, c'était en 1994, c'était un colloque. Alors, il y a eu pas mal de personnes qui se sont retrouvées sur le site, mais le site est marécageux avec plein de moustiques. Ils étaient courageux, quoi.
D'accord.
En plus, il ne fait pas très chaud. Et voilà, on ne sait toujours pas ce que c'est Tunguska.
Bon, bah, alors j'espère que tu nous donneras la réponse dans quelques émissions.
C'était les mystères de la SAN. C'est très important de garder un voile de mystère sur certaines choses.
On lancera une expédition l'année prochaine.
c'est en Sibérie, hein.
Nous allons élucider ça grâce aux télescopes de la SAN qui vont tous pointer vers le trou de Tunguska.
Il n'y a pas de trou. Justement, c'est le problème.
Il n'y a pas de cratère.
T'as pas écouté, bon allez.
Mais alors, où est-ce qu'elle se met la flotte et les moustiques? Il faut bien qu'il y ait un trou.
Dans les marécages. Donc maintenant, nous allons aborder la dernière partie de l'interview que tu as réalisée, Daniel, de Michel Marcellin, qui va nous parler un peu des grands télescopes.
Voilà, que j'ai réalisé d'ailleurs le 18 novembre. Il me vient maintenant que c'était le jour de la libération de Colmar. Voilà. Lors de la dernière guerre. Ah, c'est beau, hein. Et donc, Michel Marcellin, suite à sa conférence sur la structure spirale de la Voie lactée, et après toutes les parties où il nous a parlé longuement des galaxies, de la galaxie, des méthodes d'observation, comment on a établi ces spirales, j'ai voulu qu'il parle un petit peu de son expérience. Donc, on sort complètement du sujet, et je le fais parler sur son expérience sur les grands télescopes, puisqu'il a été au télescope de Hawaï, de Zelenchuk, en Russie, justement. Je sais pas où c'est par rapport à Tunguska, là.
C'est loin, c'est dans le Caucase, exactement.
Ah oui, d'accord, c'est plus Caucase que...
Tunguska, c'est en Sibérie, quand même...
Oui, ne m'enfoncez pas davantage.
Bon, ouais, vas-y,
c'est quelque part en Russie.
Voilà, et donc, et effectivement, il va donc nous parler de ses expériences sur les grands télescopes. Michel Marcellin.
Alors, on va peut-être terminer cet entretien. Tu vas nous parler un petit peu des grands télescopes. On va sortir donc des méthodes qui ont été strictement utilisées pour l'établissement de cette structure de la Voie lactée, parce que tu as été, Michel, dans les plus grands observatoires du monde. Alors ça nous fait rêver, nous les astronomes amateurs, ainsi que d'ailleurs tout le monde, hein. Ces grands instruments, donc tu as été celui qui était le plus grand du monde en Russie, tu as été à Hawaï, tu as vu aussi la naissance du VLT, le Very Large Telescope, avec ces miroirs de 8 mètres, c'est absolument fabuleux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu et ce que tu as fait avec ces grands télescopes?
Alors bon, ce que j'ai fait, c'est pratiquement toujours un peu la même technique, certains diraient la même routine, c'est les observations de galaxies avec cette fameuse technique qu'on a évoquée, l'interféromètre de Perrault-Fabry, et le but étant de cartographier le maximum de galaxies et d'aller le plus loin possible dans le détail, de manière à étudier leur mouvement, voir comment elles tournent sur elles-mêmes, voir comment elles se comportent dans les groupes ou les amas où on les observe, puisqu'elles sont regroupées en paquets la plupart du temps. Alors lorsque on va observer, eh bien, on a toujours donc de grands voyages à faire, c'est un des côtés intéressants du métier d'astronome, et les deux observatoires les plus importants où l'on va le plus souvent, je parle pour la communauté française en général, c'est l'observatoire qui est au Chili, qui est européen, et l'observatoire franco-canadien qui est à Hawaï, où dans les deux cas on a des télescopes de 3,60 m, et depuis peu on a au Chili 4 télescopes de 8 mètres, le fameux VLT que tu évoquais. Alors moi, pour ma part, j'ai eu la chance aussi, et là c'est vrai qu'il y a assez peu de Français qui ont eu cette chance, d'aller observer à plusieurs reprises avec le télescope de 6 mètres qui est à Zelenchuk dans le Caucase, et qui a été pendant très longtemps le plus grand du monde avec un miroir en verre de 6 mètres, donc quelque chose d'assez assez fabuleux, d'autant que pour observer, on se plaçait dans une cabine placée à 24 mètres au-dessus du miroir. au niveau du foyer primaire. Alors c'était impressionnant parce que on montait dans la cabine, le télescope étant placé à l'horizontale, et puis après, ben, on décolle en quelque sorte. Alors le mouvement est très lent, ce qui fait qu'on ne se rend pas du tout compte qu'on part comme ça. Et au bout d'un moment, quand on regarde vers l'extérieur et qu'on voit le ciel étoilé là au-dessus, on réalise que ça y est, hop, on est parti et qu'on va observer. Alors l'inconvénient, c'est que dans le Caucase, ben, il ne fait pas très chaud. Et en cours de nuit, on en avait vite marre, surtout les nuits d'hiver qui sont très longues. Donc on se relayait en cours de nuit avec un collègue qui, en l'occurrence, est Yvan Georgelin, que l'on a évoqué à propos de la structure spirale de la Voie lactée. Eh bien, on se passait le relais au milieu de la nuit, on se changeait parce que c'était effectivement assez pénible comme condition. Mais en même temps, il y avait une dimension un peu d'aventure qui aidait à passer ces mauvais moments. Et puis, bon, je me souviens d'ailleurs à l'époque, quand on avait commencé, j'étais encore étudiant en thèse, et je me souviens d'une fois, pour m'encourager, les collègues par l'interphone me disaient « Mais tu es en train d'écrire les plus belles pages de ta thèse. » Alors, moi, je râlais parce que dans la cabine, là-haut, je voyais rien du tout. Et eux, sur les écrans, ils voyaient des belles images qui arrivaient. Ils voyaient les interférogrammes. Donc, ces images que l'on interprète ensuite pour reconstituer les vitesses, ils voyaient que ça donnait des choses extraordinaires. Mais moi, je me gelais. Je voyais rien du tout du spectacle.
Oui, c'est effectivement... là, tu viens d'évoquer l'interférométrie. Donc, il y a l'histoire des l'interféromètre qui permet de voir le décalage vers les longueurs d'onde, grandes ou petites, qui permet de mesurer la vitesse. Et il y a aussi l'interférométrie, qui est une technique tout à fait, on pourrait dire moderne, si elle n'était pas née il y a assez longtemps malgré tout, également à Marseille d'ailleurs, au début du siècle à peu près. Et cette technique actuellement est mise en œuvre au grand télescope, au VLT, mais dans un autre but, c'est pour préciser, pour augmenter la résolution angulaire, c'est-à-dire le pouvoir séparateur, c'est le nombre de détails qu'on peut voir.
C'est ça. Alors moi, effectivement, j'ai employé le même terme parce qu'on parle d'interférométrie au niveau d'un appareil comme le Pérofabri, parce qu'on fait interférer le faisceau lumineux à l'intérieur même de l'interféromètre. Maintenant, il y a aussi l'interférométrie au sens où on fait interférer des faisceaux qui viennent de plusieurs télescopes espacés de plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Et on espère, avec les quatre télescopes de 8 mètres du VLT, recombiner les faisceaux dans les années qui viennent et interpréter la figure d'interférence qui résultera de la combinaison des faisceaux. Et à partir de là, reconstituer l'image d'objet que l'on verra donc avec un luxe de détails incroyable, parce qu'on arrivera à avoir l'équivalent d'un miroir qui ferait une centaine de mètres de diamètre. Il suffit de combiner les faisceaux de deux télescopes distants d'une centaine de mètres pour arriver à avoir des détails exactement comparables à ceux qu'on aurait avec un seul miroir de 100 mètres. Alors, pourquoi à ce moment-là imaginer de construire des télescopes plus gros ? Bon, il faut quand même préciser que si on gagne en pouvoir de résolution, on ne gagne pas en pouvoir collecteur. Donc en fait, on va voir des détails aussi intéressants que si on avait un grand miroir, mais on ne va pas collecter, bien sûr, autant de lumière. Donc ça reste limité à l'observation d'objets assez lumineux malgré tout.
Voilà, puisqu'on ne verra pas plus de lumière, effectivement, tu viens de le dire. Alors, pour terminer ce point-là, est-ce que toi, tu attends beaucoup de choses de l'interférométrie dans ton domaine de l'étude des galaxies, de l'étude de leur mouvement ou de l'étude de la Voie lactée ?
Alors ça permettra incontestablement d'accéder à des galaxies plus lointaines que celles auxquelles on accède actuellement. Et puis surtout, ça permettra de gagner dans la connaissance des phénomènes au niveau des noyaux de galaxies, où là, vraiment, on manque de détails, on manque de résolution, parce que, bon, je rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, la première galaxie, celle d'Andromède, Messier 31, se trouve déjà à presque 3 millions d'années-lumière. Donc on a beaucoup de mal à voir les détails de ce qui se passe autour du noyau. Pour la nôtre, ben, on est dedans, on se dit, tiens, le noyau, il est beaucoup plus près, il est à seulement une cinquantaine de milliers d'années-lumière. Malheureusement, il y a la poussière qui absorbe la lumière et qui nous empêche de voir également des détails. Donc, le seul espoir de vraiment comprendre les mécanismes qui se passe au niveau des noyaux de galaxies, donc au cœur même des galaxies, et de savoir en particulier si elles ont des trous noirs, quelle est la dimension ou la masse éventuelle de ces trous noirs, ça sera justement ce type de technique d'interférométrie.
Alors, juste un petit mot pour terminer, parce que tu es un ancien astronome amateur. Alors, quel effet ça fait d'être devenu un professionnel ? Est-ce que tu es toujours aussi ému que quand tu étais amateur ? Et qu'est-ce qui t'émeut aujourd'hui par rapport à ce qui suscitait ton émotion hier?
Alors j'ai toujours conservé mes instruments d'origine, je dirais, donc une lunette de 60 et un télescope de 115, et c'est vrai que j'aime bien les sortir de temps en temps, ne serait-ce que pour montrer aux enfants quand il y a des phénomènes astronomiques intéressants et pour leur faire partager cette émotion, et je dirais que personne n'est insensible à ça. Par contre, dans notre métier, c'est vrai que de plus en plus on se trouve derrière des écrans, on voit de moins en moins le ciel. À Hawaï par exemple, où j'ai souvent observé, c'est très décevant parce que on ne voit absolument pas le ciel depuis la coupole. Il faut sortir sur un balcon où il y a souvent un blizzard terrible et il y a un vent épouvantable. Alors on reste calfeutré à l'intérieur. Et pire, lorsqu'on sort, comme on est très haut en altitude, à 4200 mètres, la rétine est mal oxygénée et on a du mal à vraiment profiter de toute la beauté du ciel. Ce qui fait que le ciel d'Hawaï, il n'apparaît pas aussi beau qu'il est certainement. Hein. Pour voir un beau ciel, je dirais qu'il faut être à 2000 ou 3000 mètres d'altitude en montagne, mais ne pas monter plus haut parce qu'au-delà, on a d'autres problèmes qui empêchent d'en profiter pleinement. Alors, lorsqu'on a observé avec notre petit télescope au Chili, là, par contre, je prenais un réel plaisir à être sous la voûte étoilée, d'autant que ça n'était pas une coupole qu'on avait, mais un toit qui se tirait sur des roulettes et qui donc libérait entièrement le ciel au-dessus du télescope sur une surface de 15 mètres carrés. Donc on était vraiment sous la voûte étoilée. Et en plus, le ciel austral est vraiment, vraiment magnifique et plus lumineux que le ciel de l'hémisphère boréal. Donc là, je faisais de l'astronomie avec les plaisirs de l'astronome amateur tout en faisant de l'astronomie professionnelle.
Effectivement, je crois que les joies qu'on éprouve en tant que professionnel, c'est un petit peu celles que l'on retrouve, enfin que l'on éprouve quand on est amateur. Ça reste une émotion visuelle, ça reste une découverte, ça reste un émerveillement. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut conclure. Et puis quand on peut cumuler les deux, avoir accès en plus à la connaissance du professionnel ou aux instruments du professionnel, et là on a une joie qui est incomparable. Un petit mot de la fin, Michel ?
Ben merci encore de m'avoir accueilli à Nantes. C'est toujours avec un grand plaisir que je reviens répondre aux invitations de la Société Astronomique de Nantes.
Voilà, puis ben merci, et puis à la prochaine fois, c'est ce qu'on peut dire, lorsque il y aura d'autres découvertes qui vont s'enchaîner avec l'Observatoire de Marseille, et puis toi. Voilà, merci, au revoir.
C'était donc Michel Marcellin que nous avions reçu le 17 novembre pour cette première conférence de la société du cycle 2000-2001 de la Société d'Astronomie de Nantes. Et c'est un de nos conférenciers fétiches un petit peu et qui est toujours au cœur des découvertes. Voilà, donc c'était Michel Marcellin.
Merci Daniel. Pour conclure, je vous rappelle qu'il y a la page internet Pulsan. Vous aurez la photo de nous en train de faire la radio, pas en direct, mais de la dernière émission. Nous avons une prochaine émission à Noël, comme quoi la scène continue malgré qu'on se sera le 25 décembre, donc le soir du 25 décembre, 21h10, il y aura Pulsan.
Et c'est on pas la veille de Noël, c'est le soir de Noël.
C'est le soir de Noël, ouais. Donc on vous parlera de Noël. Vous comprendrez pourquoi, on va vous expliquer un peu l'étoile des ramages, etc. Et donc, autrement, bonne fête Daniel, en fait, et ta fête, hein, merci à tous les participants.
Ah oui, c'est vrai. Merci à moi.
Merci aux techniciens, Raphaël et puis Vincent, qui nous ont tripoté les boutons. Et puis, le dicton du jour, à la Saint-Daniel, le vent dégage le ciel.